La Nouvelle-Calédonie à la une de ce journal avec une situation qui s'envenime. On ira aussi aux Marquises avec Eliane Tevaitua. On parlera Vaa, Heiva et puis Miss Tahiti en fin d'édition. Le journal de 7h est présenté par Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
On ouvre cette édition bien sûr avec la situation sur le Caillou qui est passé du violent au sanglant cette nuit.
Et oui, 4 morts ont été annoncés en moins de 12 heures par les autorités. Le premier d'entre eux, un jeune manifestant kanak, avait été touché par des tirs d'armes à feu, mais pas celles des forces de l'ordre, plutôt celles d'un autre Calédonien cherchant à se défendre, d'après le haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie. Il faut dire qu'après 3 nuits d'émeute, après des dizaines d'entreprises incendiées ou pillées, les esprits sont tendus, des milices se sont formées dans plusieurs quartiers de Nouméa et des alentours pour sécuriser des zones et des barrages sont montés au milieu des routes à la fois par les émeutiers, kanak pour la plupart, et par ceux qui cherchent à la tenir hors de portée. Dans ce climat, 2 autres morts côté manifestants ont été annoncés. Peu de précisions sur les circonstances, mais le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer assure qu'aucun d'entre eux n'est à imputer à la police et à la gendarmerie. Gérald Darmanin a aussi confirmé il y a quelques heures devant le Sénat le décès d'un gendarme mobile de 24 ans. Il aurait été touché d'une balle en plein front alors qu'il discutait avec des habitants de Ploum au sud de la Grande Terre. À l'entendre, le danger est omniprésent sur le Caillou.
Des véhicules blindés, des gendarmes ou des femmes kanak allaient accoucher parturiantes qui ont traversé, vous le savez, la Nouvelle-Calédonie et ils se sont fait tirer dessus à balles réelles. Voilà ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. La violence qui s'exprime là n'a rien à voir avec la politique. Le CCAT, qui est désormais loin, on le sait, du FLNKS, est un groupe mafieux qui veut manifestement instaurer la violence comme ils l'ont fait dans l'usine du Sud. Oui, au dialogue, comme l'a dit le Premier ministre. Autant qu'il le faudra, où il le faudra, avec qui il le faudra, mais jamais la République ne doit trembler devant les Kalachnikovs.
Voilà, c'est dans ce contexte tendu qu'Emmanuel Macron a décrété l'état d'urgence sur le Caillou, et que le Caillou, là aussi il y a quelques heures, une décision prise après une réunion de crise à l'Élysée et qui répond à la demande d'élus loyalistes. Certains demandaient même l'envoi de l'armée, craignant de perdre entièrement le contrôle du pays. L'état d'urgence va déjà permettre des renforts importants et des mesures de maintien de l'ordre exceptionnelles. Fermeté donc de l'État, même si tout le monde appelle à une reprise du dialogue sur le fond. C'est déjà le cas entre les loyalistes et une partie du FLNKS, mais les partis indépendantistes n'ont que peu de prise dans les émeutes actuelles. Des partis qui devraient bientôt être invités à Paris par le Premier ministre Gabriel Attal. A noter enfin que plusieurs spécialistes du dossier calédonien se sont aussi fait entendre ces dernières heures pour demander une mission du dialogue avec des interlocuteurs hors gouvernement. Elle pourrait être menée par d'anciens premiers ministres, notamment Jean-Marc Ayrault ou Édouard Philippe.
Et ce que tout le monde appelle de ses voeux, c'est accord large, Charlie.
C'est un accord large, plus large en tout cas, que la seule question du corps électoral qui, vous le savez, a mis le feu aux poudres. Hier midi, l'Assemblée nationale, après 2 longues soirées de discussion, a voté le projet de loi constitutionnelle qui vient élargir le corps électoral pour les provinciales de la fin d'année. Un texte auquel s'opposent les indépendantistes qui veulent davantage de garanties sur la poursuite du processus de décolonisation, sur le rééquilibrage, le soutien au nickel ou l'évolution des institutions. Un texte qualifié de passage en force incendiaire par les députés de gauche qui ont voté contre le projet. Beaucoup ont au passage demandé que le dossier calédonien soit retiré des mains du ministère de l'Intérieur. C'est le cas notamment de Tematei Le Gaï, qu'on l'écoute.
Aujourd'hui, Gérald Darmanin n'est plus légitime à porter cette voix de médiateur parce qu'à plusieurs reprises, il a conforté la place de Sonia Backès dans le gouvernement qu'il a choisi. Il a conforté la place de Nicolas Mesdoff en tant que rapporteur de ce projet de loi constitutionnelle, alors que d'usage, ça a toujours été le président de la commission des lois. Et M. Darmanin, hier soir, réunit le fait colonial et continue de dire qu'il veut soutenir la Calédonie française. On ne le demande pas au gouvernement d'être pour l'indépendance, on demande au gouvernement d'être médiateur.
Tematei Le Gaïc, joint par téléphone hier en plein milieu d'une séance nocturne de l'Assemblée nationale. La réforme constitutionnelle contestée n'est pas complètement validée. Elle doit pour cela être votée par un congrès des députés et sénateurs réunis à Versailles. Un congrès qui sera convoqué fin juin si aucun accord n'est trouvé entre les partis calédoniens. C'est le calendrier avancé par Emmanuel Macron.
Retour au Fénois et plus précisément aux Marquises.
Et oui, les Marquises où Eliane Tevaitua s'est rendue pendant plusieurs jours pour une mission de sensibilisation. On vous en avait parlé, il s'agissait de rassurer sur le dossier de l'inscription de l'archipel au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors pourquoi un tel travail alors que cette inscription est elle-même travaillée depuis de longues années et que l'UNESCO devrait voter l'inscription au mois de juillet? Eh bien parce que les élus Tavini de l'Assemblée de Polynésie avaient choisi par surprise de ne pas voter un projet de résolution qui leur était présenté et qui devait apporter un nouveau soutien officiel à cette inscription. Un report qui avait été justifié par des oppositions et des incompréhensions entre des hommes et avait provoqué la colère des maires des Marquises. Les Haikaiki avaient même accusé le parti indépendantiste de vouloir déstabiliser le dossier. Rien de tout ça, assure Eliane Tevaitua, qui avoue avoir elle-même eu un peu de mal à comprendre la décision de report de sa propre majorité à l'Assemblée. Mais qu'importe, dit-elle, le gouvernement est bien en soutien du dossier UNESCO. Écoutez.
Toutes les personnes qui ont porté ce dossier, que ce soit le précédent ministre de la Culture, que ce soit d'autres personnes avant lui, ont tout fait pour faire passer ce dossier-là. Je ne dirais pas qu'ils ont mal fait leur travail. Le gouvernement est tout à fait en phase avec ce projet-là, qui est un projet d'intérêt général qui va amener des bénéfices, surtout pour l'archipel des Marquises, mais pour notre pays en général. C'est dans ce sens-là que l'on porte ce dossier. On n'est pas dans un clivage indépendantiste.
Voilà, Eliane Tevaitua au micro de Veitia Reperer, qui annonce que le projet de résolution sera remis à l'ordre du jour de Talaoï le 30 mai prochain.
Carnet noir maintenant avec le décès hier du docteur Pierre Cato.
Oui, un radiologue qui a longtemps exercé à Paofei puis à Punaouya et qui était surtout connu pour son engagement associatif, vice-président et membre très actif de la Ligue contre le cancer en Polynésie. Il avait fait de la prévention son cheval de bataille, notamment contre les cancers féminins. Moins de souffrance, moins de dépenses et plus de vies sauvées, ne cessait-il de rappeler. Les dirigeants du pays, de l'État et des mairies connaissaient bien ce Taoté très insistant mais aussi très convaincant dans ses demandes de soutien et toujours plein d'idées pour rassembler des financements, sensibiliser et mieux accompagner les malades du cancer. À 84 ans, il est resté engagé dans ce combat jusqu'à ses derniers jours. On pouvait le croiser à la CPS la semaine dernière ou bien auprès du club des entreprises contre le cancer qu'il voulait mobiliser pour financer des tournées de prévention dans les îles. Le docteur Pierre Cato sera inhumé demain après une veillée qui a lieu ce soir. Toutes ces cérémonies se tiendront dans l'intimité de ses proches comme l'a voulu la famille.
Sortez vos agendas, une grande fête arrive.
Oui, le 143e Eva Itaiti qui a présenté son programme hier. Le concours se tiendra du 4 au 20 juillet avec 10 groupes de danse et 10 groupes de chant. Et le président du jury, Matani Kainuku, insiste sur l'importance des langues polynésiennes dans cette édition. Les groupes sont prévenus, dit-il. Si le jury voit que les artistes ne comprennent pas ce qu'ils chantent ou ce qu'ils dansent, des points leur seront retirés.
Il y a une différence entre quelqu'un qui gesticule un geste mais qui ne le comprend pas avec quelqu'un qui accompagne du regard le geste, qui le trace dans l'espace. Et en fait, il y a toutes les émotions de la personne qui paraissent et à la fois dans la gestuelle et le mouvement. Donc ce sont des conseils que nous donnons. La première chose, c'est de s'approprier les textes. Ce serait dommage qu'un jury soit là à les retirer, alors que le but, c'est de conserver un maximum de points dans un concours.
Voilà, les billets pour les soirées de concours sont en vente depuis aujourd'hui sur le site web de la Maison de la Culture. À noter que les festivités démarreront dès le 22 juin avec notamment les fameux Toaro Maui au parc Veirei avec des invités étrangers, les courses de pirogue à voile à la pointe Vénus, la marche sur le feu, ce sera le jeudi 27 juin. Enfin, Marguerite Lai et sa troupe au Tahiti présenteront tous les week-ends de juillet leur spectacle sur le Marae Araurau à Paea. Tout le programme du Eiva 2024 est à retrouver sur notre site radio1.pf.
Et puis on finit par le bal des candidates de Miss Tahiti.
Et oui, le bal et la tournée de ces 10 candidates sur les plateaux de Radio 1 et TLFM. Hier, nous recevions d'abord Kalani Lichau-Hitchner, la candidate numéro 3. Cette globe-trotteuse née en Nouvelle-Zélande, où elle est d'ailleurs partie étudier le tourisme après son bac, et passionnée d'aviation comme ses parents. Elle a été hôtesse de l'air à Dubaï avant de revenir en Polynésie pour se lancer à son compte dans le secteur de la beauté. Élue Miss Punaouya en 2019, danseuse dans la troupe Hey Tahiti, elle se dit prête à poursuivre un rêve de petite fille avec Miss Tahiti, mais veut surtout rendre hommage à ses grands-parents se présentant à l'élection. Elle souhaite profiter de ce concours pour passer un message de paix. Écoutez.
La cause que j'aimerais soutenir, ce serait la cause de la violence et du harcèlement scolaire. Je pense que c'est une cause qui est très présente aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est d'actualité. Et je pense qu'il y a vraiment un message de gentillesse, d'acceptation des différences. Et il faut vraiment que ça cesse, en fait, cette méchanceté gratuite.
Kalani Lichau-Hitchner, qui était accompagnée hier de la candidate numéro 4. Moea Rock, la jeune femme de 22 ans, vit elle aussi à Punaouya, à Temaruata pour être précis. Elle est agent d'escale à l'aéroport de Faa et gère aussi une boutique de vêtements et de bijoux. Habituée des podiums, elle a été mannequin et se décrit comme une véritable businesswoman. Moea veut d'ailleurs profiter de la visibilité que lui donne Miss Tahiti pour encourager les Polynésiens à voir grand. Écoutez.
J'aimerais dire à tout le monde, quand on veut, on peut. Si vous avez des projets, si vous avez des rêves plein la tête, de ne pas hésiter et de foncer. Et si jamais ils ont besoin de conseils, de ne pas hésiter à m'envoyer des messages et je serai là pour les soutenir.
Moéa Roch, candidate numéro 4 au micro de Veitiare Pereire. Ce matin, nous recevrons de nouveau des candidats, de nouveau en direct sur Radio 1 et Tiale FM. Ce sera les candidates 5 et 6. Il s'agit de Temanava Domingo et Titari Hitchner. Ce sera donc à partir de 8h sur Radio 1 et 8h15 sur Tiale FM. Avant ça, il y aura bien sûr votre revue de presse à 7h30 et votre flash à 8h. Je vous dis à tout de suite.
Merci Charlie. On enchaîne avec la météo sur Radio 1.